Il connaît la volonté de Dieu. C'est une première question. Deuxièmement, et est-ce que c'est parce que c'est bien que Dieu le veut, ou est-ce que c'est parce que Dieu le veut que c'est bien? Donc, c'est encore une réduction à autre chose. Vous y êtes? C'est bien clair? Bon. Alors, on va se poser cette première question. Pourquoi les philosophes ont une telle difficulté à trouver le fondement du devoir, le fondement de la moralité? Qu'est-ce qui fait que le moral est moral et l'immoral immoral? C'est bien clair? Étant donné la diversité des réponses. Et une deuxième question auquel la philosophie n'a jamais donné de réponse, même les philosophes du temps, je vais vous parler du temps, c'est que la manière d'être de l'homme, c'est de durer. Et la question à laquelle on n'a pas trouvé de fondement, c'est la finalité de la durée. À quoi sert la durée? À quoi sert le temps? Par exemple, l'objet existe dans l'instant. Il a son propre vieillissement, mais ce n'est pas de la durée. Il n'y a pas d'histoire de l'objet, sinon par façon de parler. Okay. L'objet existe dans l'instant. On peut le dire aussi, il existe dans l'éternité. L'objet existe en tant qu'il occupe un certain espace. Alors que moi, l'homme, être conscient, j'existe en tant que je dure. C'est compris cela? Si je m'arrête de durer, je m'arrête d'exister. Je deviens objet. C'est clair? Ou encore un autre indice, ce qui pousse la force de la vie chez l'homme, dans la conscience humaine, c'est toujours durer un instant de plus. C'est-à-dire, nous existons en tant que nous durons, si on peut dire ça comme ça. Dès que je ne dure plus, que je n'occupe plus de temps, je disparais. C'est clair? Par contre, c'est quand le sujet existe dans la durée. Et pourquoi? En vue de quoi? Quelle est la finalité? La finalité de cela? On sait pas. Vous avez des grandes philosophies qui, finalement, donneront comme conclusion, il faut savoir passer le temps. La plupart des gens cherchent à tuer le temps. On apprendra d'ailleurs que c'est le meurtre le plus important. Tuer le temps. Un morceau de temps assassiné ne ressuscite plus. C'est ce qu'on appelle en hébreu le bitulzman, c'est la plus grande faute. Assassiner du temps, ça ne se rattrape pas. C'est clair ce que je dis là? Donc, il y avait à quel point dans la civilisation occidentale, on s'est laissé aller à cela. Et l'ennui, c'est le grand problème des civilisations élaborées. Et quoi faire du temps? C'est pas quoi faire. Alors, vous découvrez le problème. Il y a un grand étonnement. Que signifie ce fait-là que la manière de l'homme d'exister, c'est de durer? Quelle est la finalité du temps? Ça va jusque-là? Bon. Je vous ai cité, par exemple, la grande philosophie d'Épicure. Je sais pas, j'ai parlé des stoïciens ou d'Épicure. Bon, dans la grande philosophie d'Épicure, il faut savoir à quoi passer le temps. Alors finalement, on envisage toutes les hypothèses et on en vient que finalement, la seule occupation noble, c'est l'exercice de l'intelligence, à la limite jouer aux échecs, peu importe. Mais au moins un exercice noble, les mots croisés, okay, pour passer le temps. Imaginez à quel point ceux qui passent le temps comme ça tuent leur temps. Et j'ai toujours été impressionné par les crucifériistes, c'est comme ça qu'on les appelle, okay. Les gens des mots croisés, et même les joueurs d'échecs. C'est rigolo chez leur lame, à quoi ils passent leur temps? Mais avec une attention profonde, métaphysique. Vous avez compris le problème? Parce qu'effectivement, c'est un grand problème de la conscience humaine. À quoi sert le temps? Et corollairement, le grand problème, c'est l'ennui. C'est clair? Alors on va relier les deux remarques. On ne sait pas donner le fondement de la moralité et on ne sait pas donner le fondement du temps. Ça va ensemble. Alors je veux dire pourquoi. Pour ça, il faut avoir recours à un troisième principe. Pour la pensée philosophique, et on est en plein dans l'identité de Caïn, l'homme existe déjà. Par exemple, Descartes dit « je suis ». Je pense donc « je suis ». Bon, son intention est différente, je vous en parlerai un jour si vous voulez, mais il peut dire « je suis ». Je ne sais pas, si vous vous rendez compte qu'il y a là une affirmation du même type que Caïn. Il est acquis, il est déjà, il est. Pour la tradition biblique, il y a un seul être qui peut dire « je suis », c'est Dieu. Nous disons « j'existe ». Et que ça veut dire « j'existe » dans le temps, dans la durée. Je suis en train d'être, je deviens. Mais la différence, okay. Et, bon, En français, par exemple, on se sert du verbe être comme auxiliaire. Par exemple, je dirais « je suis assis ». En fait, je ne suis pas assis, je suis juif. Vous voyez cet emploi du verbe être comme auxiliaire qui n'existe pas du tout en hébreu. Et pour le philosophe, l'être humain est déjà. Par conséquent, s'il est déjà, à quoi sert le temps? C'est-à-dire, le philosophe prend conscience de lui comme étant lui l'être. Donc il a un problème avec le temps. Il y a un problème avec la morale. Et c'est le même, j'explique. La prise de conscience de l'homme de la Bible, c'est que j'existe pas encore. J'ai été créé et il faut que je mérite d'être. C'est pourquoi je suis dans le temps. Le temps, c'est le temps de résoudre le problème moral. C'est en résolvant le problème moral que j'acquiers le droit d'être. Vous avez compris la différence ? C'est-à-dire le fondement de la moralité, c'est le mérite d'être. Donc, le sentiment de soi de l'homme philosophe est très proche de celui de Caïn. Je suis acquis. Par conséquent, en aucune manière, il n'est sensible au devoir moral, parce que ça ne sert à rien. Puisqu'il est déjà, à quoi sert la moralité? Il ne peut pas percevoir l'importance du devoir moral, parce que l'importance du devoir moral, c'est l'acquisition de l'être. Est-ce que c'est clair? Notion à laquelle nous sommes habitués. Pourquoi c'est très grave une faute? Parce que je me perds. Pourquoi c'est très important une bonne action? Parce que je m'acquiers. C'est clair? Ça veut dire, le fondement de la moralité, c'est l'acquisition du mérite d'être. Qu'est-ce qu'il y a sous-jacent? Celui qui prend conscience de lui comme étant déjà ne peut pas être sensible au fondement du devoir. Alors il le ramène à quelque chose d'autre. Il dira, le devoir, c'est ce qui est utile. Le devoir, c'est ce qui est rationnel. Le devoir, c'est ce qui est noble, etc. C'est clair? Bon, là vous découvrez, si vous voulez, on parlait un langage simple, la signification religieuse de la moralité. Ou d'autre part, si vous voulez, la signification métaphysique de la moralité. La moralité, c'est important, parce qu'à travers l'acte moral, je m'acquiers le droit d'être. Mais pour ça, il faut qu'il y ait préalablement la conscience de soi, d'être non acquis, déjà, comme Caïn, mais d'être à acquérir, d'être à mériter. C'est bien clair ? Lorsque nous étudierons l'histoire d'Abraham, alors nous étudierons en particulier un certain nombre de Midrashim et nous verrons comment, par quelle manière Abraham découvre cela, qu'il est une créature. Ça veut dire qu'il n'existe que dans la mesure où il reçoit l'être qui le fait être. Vous voyez que c'est opposé à Caïn. Caïn, c'est lui l'être. Et par conséquent, s'il y en a un autre, il est en plus. Vous suivez ? Abraham, nous dit le Midrash, invitait les passants à manger. L'hospitalité d'Abraham, c'est connu dans le Midrash, et aussi chez Abraham. À la fin du repas, il leur disait, « Maintenant, nous allons remercier celui qui nous a donné à manger. » Et les invités d'Abraham avaient tendance à remercier Abraham. Et Abraham leur expliquait, « Non, nous n'existons que parce que le Créateur nous donne l'être. Et comment nous le savons, la nourriture ?» C'est-à-dire, ce qu'il faut découvrir, c'est que si nous ne mangeons pas, notre être s'évanouit. Ça veut dire que nous n'existons que dans la mesure où nous recevons l'être qui nous fait exister. Et l'expérience que nous avons un créateur vient d'abord de l'expérience de la nourriture. Ça vous fera comprendre pourquoi dans toutes les religions en général, mais en particulier dans le judaïsme, tant de rites concernent la nourriture. Dans le fait de me nourrir, je reconnais que j'ai un créateur. Est-ce que c'est clair? Quelle que soit la manière dont chacun diagnostique cela. Vous vous rappelez le petit prince, la rose, là? Vous avez tellement à manger, vous ne vous rendez pas compte que votre aide dépend de ce que vous mangez. C'est pas clair ce que je dis là? Il y a un scandale philosophique. Ce que représente la personne humaine, toute la valeur que représente la personne humaine, dépend d'un certain nombre de nutriments, je ne sais pas quoi, des oléagineux, des... Et s'ils ne sont pas là, tout ça s'évanouit. Il y a un scandale. Comment disait Molière? Il ne faut pas vivre pour manger, il faut manger pour vivre. Hein? Peut-être qu'on va inverser ça. Hein? C'est-à-dire, si je ne mange pas, je ne vis pas. Ça veut dire, mon être dépend de quelque chose que je reçois. C'est dans l'expérience de la nourriture que je sais que je suis un être dépendant d'un créateur.
Ça ne s'appelle pas seulement la dépendance par rapport à la nourriture.
Tout ce qui me fait être, je l'appellerai nourriture. Il ne s'agit pas seulement des aliments. Je me nourris du paysage du monde extérieur, par tout mon être. Je respire, je regarde, j'entends. Tout ça constitue ma conscience. Tout ça s'appelle en hébreu d'ailleurs nourriture. Et si je ne reçois pas ce qui me fait être, je cesse d'exister. C'est bien clair ? On retrouvera cela, c'est-à-dire le cas particulier de l'expérience de nourriture. C'est pourquoi, par exemple, dans la série des rites, je n'ai pas cité, par exemple, le Birkat Hamazon. Vous vous rappelez de l'analyse que tout n'est pas prière. La prière, c'est le Shmoneh Esrei, on n'a pas encore défini ce que c'est. Bien, le Birkat Hamazon, c'est un rite plus important que la prière elle-même, parce qu'il est relié à la nourriture. On apprendra ça plus en détail. Voilà, je referme cette parenthèse sur le problème moral et la manière de prendre conscience de soi. Mais je pense que vous avez eu au moins un petit éclairage. Un être qui prend conscience de lui comme s'il existait déjà est donné à la situation de Caïn à s'imposer à l'autre, parce qu'il ne sera pas sensible au devoir de moralité naturellement. Au contraire, il est handicapé. Tandis que Abel, lui, est né privilégié par rapport au problème moral. Lorsqu'il prend conscience de lui, il prend conscience de lui comme étant l'autre de l'un, mais l'un, c'est l'autre. Ça y est, c'est compris ce que j'ai dit. Il prend conscience de lui comme frère d'eux. Et donc, il est donné plus facilement d'emblée à la valeur de fraternité. C'est plus clair ? Pas tellement. Alors, on se familiarisera avec tout cela. On va prendre la scène suivante. Verset 3. Vaïhi miket yamin, suivez sur le texte. Et il arriva, miket yamin, à la fin d'une période de jours. Ça veut dire à la fin de l'année naturelle, agricole. Vaïhavé Caïn miferi adama min harashet. Et Caïn apporta des fruits de la terre, une offrande à Dieu. Notez déjà que c'est lui qui prend l'initiative de ce concours des offrandes qu'il va y avoir entre lui et Abel. Mais, et vous verrez que le commentaire de Rachid le signale, cette scène se passe pour Caïn à la fin de l'année. Retenez cela, je l'utiliserai tout à l'heure. Verset 4. Vehevé levi gamhu mi bechorot sono u michel ben. Et Abel apporta lui aussi des prémices de son troupeau et des meilleures pièces, des meilleurs animaux, les plus gras. Alors, je reprends les données de cette offrande. L'offrande de Caïn est à la fin de l'année et il apporte une offrande des fruits de la terre. L'offrande de Abel est une offrande des prémices du troupeau et des meilleures pièces. Vaïcha Hachem élevé le Vemikrato. Et Dieu exauça Abel et son offrande. Vous suivez ? Et verset 5, Vel Caïn, Vel Mikrato, Loshah, et à Caïn et à son offrande, il n'a pas exaucé, Vaïhar le Caïn, et Caïn en fut en colère, c'est plus que ça, furieux, Vaïhar, c'est-à-dire courroux, Vaïpelupanav, et sa face est tombée. C'est un peu le geste de la dépression. Il était en colère et mélancolique. On aura à revenir sur chacun de ces détails. Mais la première question qui nous frappe, c'est qu'apparemment, il y a un arbitraire dans la décision de Dieu. D'autant plus que Caïn avait pris, lui, l'offrande, l'initiative d'apporter le premier, une offrande. Vous suivez ? Vous avez bien compris la difficulté ? Or, le texte semble ne pas tenir compte de cette difficulté, puisqu'il ne nous dit rien à ce sujet. Ça veut dire que nous avons suffisamment d'éléments de connaissance pour comprendre ce qui s'est passé. Alors, je vais suivre la même analyse. C'est surtout pour éclairer la première. C'est-à-dire, dans le geste de l'offrande, de la relation à Dieu, Caïn va fonctionner de la même manière qu'il fonctionne par rapport à autrui en général. Pour Caïn, l'autre est en plus. Alors il donne ce qu'il a de plus à celui qui est en plus. C'est ce qu'explique le Midrash. à la fin de la récolte, il se sert, et le surplus, il le donne en offrande. Ce surplus, ça peut être très grand, considérable, mais c'est le fait que c'est le surplus. Vous avez compris le parallèle ? C'est moi qui suis. L'autre est en plus. À celui qui est en plus, je donne ce qui est en plus. Il va fonder un culte idolâtre. Je veux dire, dans le monde de Caïn, l'être important, c'est lui. Mais en plus, grâce à Dieu, il y a Dieu. Alors on lui donnera ce qu'il y a de plus. Ça va jusque-là ? Tandis que Abel va fonctionner dans son offrande, comme il fonctionne vis-à-vis d'autrui, c'est l'autre qui est l'essentiel. Je lui donne l'essentiel et le reste, c'est pour moi. C'est pourquoi Abel, son offrande, c'est les prémices. Qu'est-ce que c'est que les prémices ? La première part. C'est clair ? Vous voyez donc qu'il y avait suffisamment d'indications dans le texte pour nous expliquer ce qui est arrivé. C'est-à-dire qu'il est arrivé une confrontation spirituelle, un concours spirituel, si j'ose dire, une concurrence spirituelle. Et Caïn a eu l'imprudence de fonder une religion. D'emblée, elle est idolâtre. Alors il est disqualifié. Vous avez compris donc ce parallèle entre la situation anthropologique et la situation théologique. Vous pouvez avoir des civilisations qui vont construire des temples dorés en or, et pourtant, à côté, il y a la misère. Je pense par exemple à ce qui se passe dans l'Inde actuellement. Bon, c'est très frappant dans les pays de ce genre, et pas seulement en Occident aussi. Vous avez des temples majestueux, et puis, c'est quand même en dehors de la cité. L'habitation de l'autre, on ne s'en occupe pas, parce qu'il est en plus. Alors même si l'offrande que l'on donne à Dieu est très grande, c'est une offrande disqualifiée parce qu'elle est en plus. Est-ce que c'est clair ? Vous avez bien compris ? C'est-à-dire que ce sont tous ces systèmes de société où la religion, la relation à Dieu, est séparée de la vie de la cité. Alors vous pouvez avoir des temples majestueux, mais c'est en plus, c'est en dehors. C'est bien clair. Et il ne se passe rien. Oui, dans l'offrande de Abel, il se passe quelque chose, il est exaucé. Dans l'offrande de Caïn, elle peut être ce qu'elle est, étant donné qu'elle est en plus, il n'est pas exaucé. Je vous donner un autre exemple en morale générale. On a ici de nouveau creusé, approfondi cette notion de l'être en plus. Vous avez aussi la morale des surplus. Par exemple, toutes ces offrandes du peuple américain, où très très naïvement, ils vous mettent un tampon surplus du peuple américain. Alors, ça peut être d'énormes quantités de sacs de je ne sais pas quoi, ça ne résout pas le problème moral de la faim dans le monde. Parce que c'est la morale des surplus. Vous avez suivi ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Vous voyez de quoi nous étions partis, apparemment un arbitraire, une injustice dans ce jugement. En réalité, tout simplement, on va prendre acte de ce qui se passe. La morale de Caïn est fausse, parce qu'elle est la morale du surplus, et la morale de Abel est vraie, parce qu'elle est la morale de l'essentiel. C'est bien clair jusque-là. Prenez par exemple le problème de la faim dans le monde. Vous savez que c'est un des grands sujets d'inquiétude dans le monde contemporain. Peut-être qu'il n'y aura pas la guerre mondiale entre l'Est et l'Ouest, parce qu'ils arriveront à se neutraliser, mais il risque d'y avoir une guerre entre les pauvres et les riches, c'est-à-dire entre le Sud et le Nord, et pas l'Est et l'Ouest, qui serait terrible dès que les peuples sous-développés, comme on dit, en auraient les moyens. Et n'importe qui aujourd'hui peut avoir les moyens d'avoir une bombe atomique, c'est évident. Je ne sais pas si vous lisez la science-fiction, mais c'est pire que ça. Okay, l'arsenal d'armes terrifiant qu'il y a sur la planète. Ça peut arriver qu'un Kadhafi quelconque donne une bombe atomique à, je ne sais pas moi, au Tchad. Et si le Tchad s'énerve, Moscou, Washington, ils pourront rien. Vous comprenez ce que je dis ? Non. Et pourtant, il y a suffisamment de capacités, de sciences et de techniques dans la civilisation contemporaine pour que tout le monde ait à manger à sa faim complètement. C'est évident. C'est clair jusque-là. Alors, qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est que le problème moral n'est pas résolu. Et l'Occident riche a beau dire « mais je donne la charité », ça ne résout rien, parce que c'est une charité de surplus. Est-ce que c'est clair? Vous savez, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui en Éthiopie, il y a une famine terrible à cause de la sécheresse, et il y a une nation entière qui est en train de disparaître, pratiquement. Je viens de lire ça dans le journal hier. Alors, le journal de Marie, un journal d'Israël, qui a fait le bilan de ce que la Russie envoie à l'Éthiopie. Je ne sais pas combien de tonnes de nourriture et 10 fois plus de tonnes d'armement. Vous voyez, il y a quelque chose qui cloche là-bas. C'est clair. Et bon, du côté de l'Amérique, ça ne va pas mieux. On a tout à fait cette équation qui est mise en place. À partir du moment où l'autre, c'est l'être en plus, et il n'a droit à ce que j'ai de plus, même pas la quantité de calories que les Occidentaux jettent dans leur poubelle, le tiers pourrait nourrir pendant un mois une famille du tiers-monde. Vous comprenez ce que je veux dire? Et alors, c'est cette équation qui est mise au point de départ. Ça veut dire qu'à la fondation de cette cité, il y a la suppression de la dignité d'autrui. Et la Torah nous dévoile les conséquences, nous développe les conséquences. Premièrement, disqualification dans la relation à Dieu. Bien que, comme toutes ces civilisations-là, c'est Caïn qui avait pris l'initiative d'un culte. Mais imprudemment, il a pris l'initiative du culte et puis il ne se passe rien. Dès que Abel, lui, intervient, c'est là que ça se passe. Résultat, fureur de Caïn, jalousie et mélancolie. Dépression, ce qui va toujours ensemble. Okay. C'est clair jusque-là? Bon, on a élucidé le problème? Alors, je vais encore vous ajouter une donnée. Vous lirez vous-même la suite du texte et vous essayerez de déceler quel est le verset, on le reprendra la prochaine fois, où Dieu va donner le premier sursis à l'humanité. Cherchez vous-même quel est le verset où on apprend qu'un premier sursis va être donné à Caïn. Ça veut dire, normalement, il aurait dû être détruit jusqu'à ce qu'une nouvelle humanité soit suscitée. En fait, il est protégé par un sursis. C'est bien clair jusque-là? Celui qui disparaît de la scène, c'est Abel. Ça, on a déjà appris la dernière fois. Parce qu'on pourra toujours plaider que si Caïn est resté ce qu'il était, c'est parce que Abel ne l'a pas aidé. Si Abel l'avait aidé, Caïn se serait amélioré. Peut-être. Encore une fois, ce qu'on a vu au début de l'année, si on fait le bilan de cette histoire, elle est très pessimiste. Ça veut dire que, peut-être j'ai employé déjà cette expression, pourquoi accuser Abel de n'avoir pas réussi à éduquer Caïn? Peut-être que Caïn est inéducable. Et si on fait le bilan de l'histoire du monde, peut-être que c'est le bilan qui apparaît, que Caïn est inéducable. Chaque fois qu'une civilisation se développe, elle devient ce qu'elle va devenir dans la descendance de Caïn, mais déjà qu'il s'amorce là, elle devient une civilisation d'assassins, c'est-à-dire de marchands de canons, de fabricants d'armes. Vous avez remarqué cela, que les sociétés les plus civilisées, les plus évoluées, ont une économie qui repose sur la fabrique des armes qu'on envoie ailleurs pour se faire tuer. Prenez par exemple la France, qui est un pays de haute civilisation, et toute son économie tourne autour des fabriques d'armement. C'est clair? Et chaque fois que le problème se pose de l'évaluation morale d'envoyer ou de ne pas envoyer des armes à tel ou tel pays et de susciter des conflits pour pouvoir vendre les armes, hein, on répond intérêt économique, intérêt de la société, intérêt politique. Vous avez remarqué le problème. Alors, vous verrez qu'il y a cependant un sursis. Comme si le jugement ne peut être donné que dans la catégorie du dernier des jugements, du jugement dernier, qu'on va essayer de voir ce qui se développe de cette civilisation jusqu'au bout et à la fin, elle sera jugée. Jusqu'à la fin, elle pourrait se rattraper. Mais je voudrais que l'on suive vraiment pas à pas tous ces sursis, toutes ces étapes, parce que vous allez de nouveau les diagnostiquer dans la civilisation contemporaine. En tout cas, l'équation de base est claire. Okay. Une société qui est basée sur la suppression d'autrui mène au meurtre de Abel par Caïn. Premier sursis, vous chercherez le verset. Et maintenant, vous allez aborder avec moi aujourd'hui encore le verset 17. Ça, on reverra le reste dimanche. Verset 17. En hébreu, c'est Yud Zayin. Voilà, vous l'avez sous les yeux. Verset 17. Vayedar Kain et Ishto. On est arrivé au verset 4. Okay. Alors avancez dans le texte. Verset 17. Le texte qu'il y a entre, vous le lirez attentivement. Et Kain connut sa femme. Vous avez trouvé ? Donc, attendu. Voilà. Dans ces livres-là, vous l'avez là, à la page Yud Dalet, 14, deuxième ligne. Ça y est ? Oui. J'entends pas. La finalité de. Mais il est détruit parce que, ça on l'a vu la dernière fois, il avait une autre possibilité, vous suivez, soit de réussir, et c'est très bien, soit il échoue, de s'enfuir. S'il reste chez Caïn, il se met en danger. Bon, mais lorsque nous reprenons ce texte, vous verrez d'autres dimensions, en particulier... une autre dimension d'échec de ce qu'on appelle la moralité exagérée. Je vais vous raconter ce midrash puisque je vous en parle. Un midrash explique à propos du verset. Oui, à propos du verset 8. C'est pas la peine de prendre du temps pour le chercher, je vais vous lire vous-même. Lorsque Caïn s'adresse à Abel après cette disqualification, le verset dit Vayei, et il arriva, Biyotam Basade, alors qu'ils étaient dans le champ. Au champ, Vayakom Caïn, et Caïn se leva, et l'Evel contre Abel, Achim, son frère, Vayargehu, et le tua. Le Midrash pose la question, qu'est-ce que ça veut dire, il se leva, Vayakom, il se leva, et le tua. Le Midrash raconte, ils ont lutté, et Abel était le plus fort, et Caïn était par terre. Et quand Caïn était par terre, Caïn a dit à Abel, tu es mon frère, ne me tue pas. Alors Abel lui a laissé la vie sauve, Caïn en a profité, s'est levé et a tué Abel. Vous voyez aussi ce que peut être l'échec d'une moralité non cohérente. Il y a une phrase de la Gemara qui touche un peu à ce problème et qui dit « Celui qui est miséricordieux pour les méchants finira par devenir méchant pour les miséricordieux. » Il y a une vertu exagérée qui est aussi un échec de la morale. Vous avez compris cela ? C'est-à-dire, Abel a eu pitié de Caïn. Alors Caïn en a profité pour le tuer. Ça veut dire que, pour récapituler tout cela, on voit que Abel n'a pas réussi à moraliser Caïn. Alors puisqu'il n'a pas réussi, il doit savoir qu'il est en danger chez Caïn tant que Caïn n'est pas devenu moral. Alors ou bien il réussit, c'est très bien, sinon il y a deux possibilités. Ou celle que le récit nous raconte parce qu'Abel est resté chez Caïn, ou s'enfuir. On le retrouvera avec Jacob et Ésaü. Vous rappelez, je vous l'avais déjà annoncé. Lorsque Jacob se rend compte que Ésaü veut le tuer, sa mère intervient et lui dit « Fuis ». Vous vous rappelez de cela ? Top. Alors, on arrive à ce verset 17. Malgré tout, il y a un bilan et Caïn va recevoir un sursis. Je voudrais que vous cherchiez par vous-même comment c'est écrit dans le texte et dans quel verset. C'est entre le verset 4 et le verset 17, bien sûr. Bon, ça vous le direz la prochaine fois. Verset 17. La suite de l'histoire de la civilisation de Caïn. Vayedar Caïn et Ishto, et Caïn connut sa femme, Vatahar, Vatel conçut, Vateled et Hanour, et elle enfanta Hanour. Qu'est-ce qu'on sait déjà ? C'est que cette cité, cette civilisation est fondée sur la suppression d'autrui. Voilà qu'il y a engendrement. L'être Caïn engendre un être qui s'appelle Hanour, avec la même indication. Il n'y a pas écrit. Elle engendra un fils, elle enfanta un fils et le nomma Hanour, elle enfanta Hanour. Hanour, ça veut dire quoi en hébreu cette racine ? Hanouka, Hinour.
Éducation.
Éducation. Hanor, c'est l'éducateur. Ça veut dire que, malgré tout, cette fonction d'éducateur moral que Abel devait représenter et qui a été supprimée, ressurgit dans Hanor. C'est clair ? Il y a un espoir. Pas plus fort, je ne sais pas.
Et là, ce n'est pas sans sursis d'avoir
mis
l'éducation.
Non. Caïn a un sursis. Il n'est pas détruit tout de suite en punition. Dieu lui donne un sursis de temps. Sursis, c'est de temps. Et il fonde une cité. Mais d'abord, on apprend qu'il a un fils qu'il appelle Hanor. Ça va jusque-là ? Donc, je ne connais pas la suite. Le fils de Caïn s'appelle Hanor. Bon, peut-être que la fonction éducative que devait représenter Abel va ressurgir dans Hanor. Et peut-être que, à travers Hanor, l'équation de dignité d'autrui sera reconstituée. Mais voilà ce qui se passe, une grande catastrophe.
Hanor, ça ne veut pas dire aussi les deux curés.
Quel, par exemple, Hanouka, les Haner. Ça a ses deux sens. Et ça veut dire enseigner et ça veut dire inaugurer. Vaihi Boneir, et il construisit une ville. Caïn construisit une ville, Vaikra Shemaïr Keshem Beno Hanor. Et il nomma le nom de la ville comme le nom de son fils Hanor. Et je vous ai annoncé, c'est une grande catastrophe. Apparemment, ici, la Torah nous raconte un détail anodin, c'est que Caïn a fondé une cité après avoir tué son frère. Le fils de Caïn, c'est-à-dire l'homme à la troisième génération, après Caïn, a la fonction éducative, et il n'a donc pas besoin du frère, pas besoin du berger. Il y a une tentative de civilisation qui est en sursis. On va voir ce qui va sortir d'elle. A priori, je ne sais pas si Caïn est assassin. Peut-être qu'il n'est que justicier. Peut-être qu'il a puni Abel d'avoir échoué. Quand vous voyez un meurtre, vous ne savez pas ce qui se passe. Si par exemple c'est sur l'échafaud, ben c'est la société qui désigne un justicier pour faire justice de quelque chose qui s'est passé avant. C'est clair ? Bon. Alors on va le mettre en sursis. Je vous donne un exemple, une minute. Il se produit un meurtre. Tout de suite, la police intervient et enferme le meurtrier dans une maison où il y a écrit « Liberté, égalité, fraternité ». Il n'a pas pris de mon frère. Pourquoi ? Le meurtrier va être protégé jusqu'à ce qu'il passe en jugement, alors qu'on l'a pris sur le fait. Il est quand même protégé par la police pour que la justice dise qu'est-ce qui s'est passé vraiment. C'est le sursis de Caïn. C'est clair ? Ça va jusque-là ? Plus tard, je vous dirai comment le Midrash explique que Caïn avait un signe sur son front et ce signe le protégeait. Quel est ce signe ? Comment ça le protégeait ? Mais c'est le signe d'un sursis. Regardez surtout ce mot-là. Et comment commence l'histoire du sursis ? Il a un enfant qui s'appelle Hanor et il construit une ville. Jusque-là, ça a l'air d'être un récit, enfin anodin, un détail. On nous raconte la vie de Caïn. Avant d'aller plus loin, qu'est-ce que vous vouliez dire ?
Oui. Pour Adam, il a dit « l'autre ami est nous ». Pour Caïn, il n'est pas encore dit « l'autre ami ».
Oui. Ah, donc on revient précédemment. Il y a un midrash qui dit comme ça que Caïn plaide en disant que je ne voulais pas le tuer. C'est la première fois que ça se passe. Il dit je l'ai frappé. Je ne savais pas qu'en le frappant, ça le tuerait. Alors Dieu lui répond, on va voir ce qui va sortir de toi. En fait, ce qui sort de lui, c'est le premier fabricant des armes qui s'appelle Tubal Caïn dans la suite du récit. C'est le Vulcain de la mythologie grecque, Tubal Caïn. Et le descendant de Caïn fabrique des armes, c'est la preuve qu'à l'origine, Caïn a vraiment tué Abel. Ça, on l'étudiera plus en détail. C'est clair, suffisamment clair, pas encore. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il arrive de cette société ? Elle va fabriquer des armes. Ça veut dire qu'il y avait une tendance à l'assassinat. C'est pas plus compliqué. Et le Midrash que je vous cite dit que Caïn a frappé. Et il a vu le sang sortir, et il a continué à frapper jusqu'à ce que tout le sang sorte. Par conséquent, même s'il pouvait plaider en disant « je ne savais pas que ça allait le tuer », c'est ce qu'il a fait. Seulement, encore une fois, il a un sursis, comme je l'ai cité tout à l'heure. Alors j'en arrive à la fin du verset. Caïn construit une ville et nomme le nom de la ville comme le nom de son fils. Ça veut dire, en d'autres termes, qu'il donne le nom de son fils à la ville. Est-ce que vous suivez ? Bon. Et je vous ai annoncé, c'est la plus grande catastrophe qui est arrivée dans l'histoire de l'humanité. Alors, je vais vous expliquer très brièvement, et peut-être vous commencerez à comprendre pourquoi je vous ai demandé de lire parallèlement le chapitre 34, si vous l'avez déjà lu. Si vous ne l'avez pas déjà lu, lisez-le, et vous recoderez, dimanche, on verra le lien. C'est que le nom désigne la valeur. Jusque-là, c'est l'homme qui est nommé. C'est l'homme qui est la valeur suprême. Or, on a pris le nom à l'homme et on l'a donné à la ville. C'est la ville qui va se substituer à la personne humaine au niveau de la valeur. C'est clair ? Qu'est-ce qu'il en résulte ? Il en résulte que les hommes seront asservis, assujettis à l'impersonnel de la ville, de l'administration de la cité. Ça va jusque-là ? Et c'est la plus grande catastrophe qui a pu arriver à l'histoire de l'humanité. C'est quand la personne humaine perd sa valeur et est asservie à l'impersonnel de la cité. C'est le grand danger de la civilisation contemporaine, d'ailleurs. Vous n'êtes plus monsieur un tel, vous êtes un numéro dans un ordinateur. Vous voyez jusqu'où ça peut arriver. Et je vais vous donner un exemple que j'ai appris d'un de mes maîtres, qui est très important. Les pays, les peuples et les pays ont l'habitude de se nommer du nom de leur pays, c'est-à-dire de nommer leur pays. Par exemple, la France. La France, c'est quoi ? C'est le pays de France. Le Portugal, là, il y a un problème, pourquoi certains se mettent au féminin, d'autres au masculin, c'est de la héraldique, c'est autre chose. Dans l'inconscient des nations, certains se voient au féminin, d'autres se voient au masculin, la France, le Portugal, vous voyez ce que je veux dire. Donc, mais ça, c'est un problème à part. On nomme le pays, on nomme pas l'homme. Prenez le cas de la France. Il y a eu une fois une tribu qui était les Francs. On a pris le nom des Francs, qui étaient les hommes. On l'a donné au pays, c'est devenu la France, et maintenant, il n'y a plus que des Français. C'est-à-dire des hommes du territoire de France. Entre-temps, la morale est évacuée, et qu'est-ce qu'on met à la place ? La sociologie, l'administration du pays. Vous avez compris le problème ? La raison d'État. Je me rappellerai toujours de cette phrase de De Gaulle. Je me suis toujours fait une certaine idée de la France. Il n'a pas dit du peuple français. Vous avez compris le problème ? Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une vraie valeur. Mais vous voyez ce qui se passe. Un espèce de monstre impersonnel qui se met à la place de la valeur de la personne humaine qui lui est sacrifiée. Sur l'autel de la patrie. C'est vraiment un sacrifice. Okay. C'est clair jusque-là ? Et le cas particulier, c'est Israël. Le mot Israël désigne le peuple. Et la terre s'appelle la terre d'Israël. Mais Israël, c'est le peuple. C'est resté dans la tradition d'Israël que la valeur doit désigner l'homme et pas la terre. Ça ne veut pas dire que la terre n'a pas de valeur. Okay. Mais la terre, c'est Eretz Israël, la terre du peuple qui s'appelle Israël. Vous avez compris le problème ? Le nom du pays, non, ça c'est les journalistes occidentaux qui disent l'Israël. Ça se dit pas en hébreu.
Non, les Israéliens.
Oui, Nahon. Mais ça veut dire les membres du peuple d'Israël. Ça veut dire, j'ai très bien compris ce que tu veux dire. Mais c'est le peuple qui est nommé. Le mot Israël désigne le peuple, pas le territoire. Aujourd'hui, l'État d'Israël s'appelle comment ? L'État d'Israël s'appelle comment ? En hébreu, Médina d'Israël. La terre s'appelle Eretz Israël. Comme il n'y a pas tout Eretz Israël encore, on l'appelle Médina d'Israël. Ça veut dire le pays d'Israël. Alors que partout ailleurs, si vous voulez, bon, je reprends le cas de la France existe avant les Français. Alors qu'autant des Francs, c'est les Francs qui étaient la valeur. Vous avez compris la différence ? Bon. Ça veut dire que le nom est pris à l'homme et est donné à la cité, c'est-à-dire que c'est l'impersonnel de l'administration de la cité qui prime sur la personne humaine. C'est la première conséquence grave, tragique, du geste de Caïn. Caïn a supprimé autrui. À la deuxième génération, lui-même est supprimé. Le sujet lui-même est supprimé. Il n'y a plus que des citadins, des citoyens. Des numéros. Et les gens de la ville, dans l'ancien français, ça s'appelait les vilains. Ça vient de là. Regardez ce que dit la Torah juste après. verset 15, Vaïvalet, la Hanor et Eirat. Et fut enfanté à Hanor, il n'enfante plus. Fut enfanté, ça devient impersonnel. Okay? Et l'homme à la quatrième génération, Caïn, Adam, Caïn, Hanor, Eirat, s'appelle Eirat. Tu peux mettre ce nom au tableau. Je ne les étudierai pas tous, mais au moins celui-là. Regardez, le nom est Eirat. Voilà le nom du fils de Hanor. Quel est le mot que vous devinez dans ce mot-là? Ir. Ir, c'est-à-dire la ville. Il n'est plus qu'un membre de la ville. Vous voyez comment il s'appelle? Il s'appelle le vilain, tout simplement. Le citoyen. Pas dans le sens noble, mais dans le sens qu'il n'est qu'un rouage d'un impersonnel qui est là. T'es clair jusque-là? C'est bien clair? Bon, eh bien, je crois que l'heure est arrivée. On va s'arrêter là. Enfin, en une phrase, pour récapituler cela, on a appris deux choses nouvelles. Que, étant donné les points de départ de la relation Caïn-Abel, dans l'échec où Caïn a assassiné Abel, Caïn va recevoir un sursis, et puis l'histoire de ce sursis commence avec de nouveau un échec, c'est le fait de déplacer la valeur de l'homme à la cité. Et nous verrons la suite dans la suite. Mais familiarisez-vous déjà avec le texte. Alors la prochaine fois, dimanche, le verset 17. Okay.